Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Europe Soir, vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Notre invité ce soir à 18h20, on va parler relance et économie avec l'une des grandes voix de l'économie française, Hervé Lorenzi, qui publie La Grande Rupture, comment retrouver une croissance durable aux éditions Odile Jacob. Il nous livrera ses solutions. 18h30, les polémiques du jour avec le débat des grandes voix, libéré, délivré, fini le masque à l'extérieur et le couvre-feu. Alors est-ce le retour de la bamboche? On en débattra. 19h15, la carte blanche de l'économiste Nicolas Bouzou. Et puis 19h20, grand débat ce soir dans le Club des Idées sur la prise en charge du grand âge. À quoi ressembleront les EHPAD du futur qui sont aujourd'hui tant décriés? Faut-il tout changer, favoriser la prise en charge à domicile ou les maisons intergénérationnelles? On ira voir ce qui se passe chez nos voisins, intéressant comme souvent. C'est un sujet absolument passionnant et qui nous concernera tous un jour. On en parlera donc avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord le journal, toute l'info avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1.
Mes chers concitoyens, je le dis, je le ressens, nous vivons un moment important, un moment heureux de retour à une forme de vie normale.
La délivrance, enfin, dans quelques heures, dès demain, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire.
Et le couvre-feu, lui, sera levé à partir de dimanche.
Le Premier ministre justifie la levée de ces restrictions par l'amélioration de la situation sanitaire.
Mais Louis Dragnel nous dira qu'il y a aussi des raisons juridiques et politiques.
Au sommaire également, le verdict de la cour d'assises de Bastia, réclusion criminelle à perpétuité pour l'ex-compagnon de Julie Dwib. Sa mort avait poussé le gouvernement à organiser le Grenelle des violences conjugales.
Dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard il y a 6 mois dans le Tarn, l'enquête s'accélère. Au moins 4 personnes sont en garde à vue, dont son mari.
On prendra aussi des nouvelles de Thomas Pesquet, notre astronaute préféré, qui donne en ce moment des sueurs froides à tous ceux qui ont le vertige.
Et puis, info exclusive, info très importante concernant le festival des vieilles charrues cet été, suspense.
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,20% à 6652 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
De nombreux départements en vigilance orange dès ce soir.
Oui, 29 actuellement au total, 28 départements de la moitié ouest en vigilance orange aux orages. Ils vont être violents, les orages, et le département du Rhône qui vient d'être placé en vigilance orange canicule. Il fait très chaud à Lyon et dans sa région. Je vous dis tout pour demain qui va être agité à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et il y a des annonces comme ça qu'on n'avait pas vu venir, pas de si tôt en tout cas, mais qui font plaisir.
Oui, le gouvernement lâche la bribe. Jean Castex a donc annoncé à la mi-journée, à l'issue du Conseil des ministres, la fin du port du masque en extérieur dès demain et la fin du couvre-feu à partir de dimanche.
Un masque que beaucoup d'entre nous avons de plus en plus de mal à supporter, c'est vrai, surtout avec les fortes chaleurs de ces derniers jours.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on pourra faire n'importe quoi, évidemment, mais c'est une annonce qui emplit de joie ces Parisiens rencontrés par Zoé Pallier.
Que des bonnes nouvelles aujourd'hui, ça change, ça fait beaucoup de bien.
On a pris la décision avec 24 heures d'avance d'enlever le masque parce qu'il fait extrêmement chaud et que c'est très désagréable d'avoir un masque.
Sans le masque, maintenant, on peut clairement ressentir les odeurs un peu sympas, les petites grillades, les fleurs.
Même celles qui sentent pas bon, ça nous a manqué, on est prêt à les sentir.
Ça va faire très bizarre à partir de demain de voir de nouveau des visages, les expressions et les sourires et même les gens qui font la tête, mais bon, au moins on les verra.
Moi, je suis vraiment soulagé. Je suis éducateur, on finit des fois à 23 heures. Le fait de rentrer directement chez soi, bah forcément, c'est dur.
On va pouvoir sortir entre copines, ne pas regarder tout le temps notre montre pour pouvoir rentrer à la maison, éviter de se manger des amandes.
Voilà,
on est mangé pas mal.
C'est une bonne décision, on attendait la décision.
Elle est arrivée à temps parce qu'on en avait marre. Attendre la fin du mois, c'était trop dur.
Des Parisiens bientôt libérés du masque et du couvre-feu au micro européen de Zoé Pallier. On précise quand même que le port du masque restera pour l'instant obligatoire dans les cours de récréation et lors de regroupements dans les stades notamment.
Alors, fin du masque demain et fin du couvre-feu dimanche. Louis Dragnel, vous nous avez rejoint. Le Premier ministre s'appuie sur des données sanitaires, mais vous nous expliquez que d'autres arguments ont pesé dans cette décision.
Oui, notamment deux raisons que Jean Castex n'a pas évoquées et pourtant essentielles pour bien comprendre cette décision. Tout d'abord, un motif politique. Un constat, le couvre-feu n'est plus respecté dans de nombreuses villes. Alors plutôt que demander à la police de faire des verbalisations massives tous les soirs en prenant le risque d'énerver les Français, le gouvernement a préféré anticiper la grogne. Ensuite, la deuxième raison est juridique. En moins d'une semaine, une dérogation a été accordée par le gouvernement pour les spectateurs de Roland-Garros et une autre hier soir à l'occasion de l'Euro de football pour le match France-Allemagne. Le problème, c'est que si quelqu'un est verbalisé ce soir, par exemple, pour non-respect du couvre-feu, si cette personne saisit la justice pour inégalité de droit, eh bien, il y a un grand risque pour le gouvernement. que le Conseil d'État considère qu'il n'y a pas de raison d'autoriser une dérogation au couvre-feu pour des événements sportifs et pas pour d'autres événements de la vie quotidienne. Pour toutes ces raisons, le gouvernement a donc préféré annoncer une bonne nouvelle avec 10 jours d'avance. Le dernier couvre-feu aura donc lieu dans la nuit de samedi à dimanche, de 23h à 6h du matin.
Merci Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Le gouvernement se fixe par ailleurs un objectif, 40 millions de primo-vaccinés fin août.
Dont 35 millions de vaccinations complètes. Et je vous rappelle que le délai entre deux doses a été raccourci de 5 à 3 semaines.
L'actualité ce soir, c'est aussi le verdict dans l'affaire Julie Douib en Corse.
Oui, un procès que vous avez suivi pour Europe 1, Marion Dubreuil. L'ex-compagnon de la jeune femme vient donc d'être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Oui, la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans, c'est la peine maximale. Dès le départ, la présidente le précise, ce n'est pas une décision pour l'exemple. Dans son box, Bruno Garcia n'a aucune réaction. Lucien Douib, le père de Julie, verse quelques larmes. La peine est inhabituelle, reconnaît la magistrate, mais elle repose sur des éléments objectifs du dossier. Elle déroule ensuite les motivations de la cour, implacable. Vous avez donné la mort à votre ex-compagne, mère de vos deux jeunes enfants. Cette violence ultime a été suffisante sans prendre en compte les violences antérieures. Votre personnalité n'a pas joué en votre faveur, monsieur Garcia, poursuit la présidente. L'accusé n'a exprimé des regrets qu'à la toute fin du procès, quelques mots pour ses enfants. Cela n'a pas convaincu les trois juges professionnels qui lui ont aussi retiré l'autorité parentale sur ses deux fils. Depuis sa cellule, Bruno Garcia avait revendiqué son geste, menacé des proches de Julie Douib, son père notamment. Son avocat avait mis en garde les jurés. Avec une peine de haine comme la perpétuité, Bruno Garcia ne comprendra rien. Il va ruminer dans sa cellule et infliger un nouveau procès à la famille Douib. Il a désormais 10 jours pour faire appel.
Merci Marion Dubreuil qui a donc suivi ce procès pour Europe 1 à Bastia.
L'actualité judiciaire, c'est aussi ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard dans le Tarn.
Oui, ça fait 6 mois que la jeune infirmière n'a plus donné signe de vie maintenant.
Et aujourd'hui, on a appris qu'au moins 4 personnes sont en garde à vue, dont son mari et plusieurs proches de ce dernier, Benjamin Peter.
Oui, Cédric Jubilard qui a été interpellé sur son lieu de travail en tout début d'après-midi. Puis une heure plus tard, sa mère Nadine et son beau-père ont également été placés en garde à vue. Aux alentours de 15h cette fois, c'est sa petite sœur qui s'est présentée d'elle-même à la gendarmerie d'Albi pour être également entendue. Et au même moment, à l'escure d'Albigeois, à quelques kilomètres de là, c'est la maison de Séverine, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, qui était perquisitionnée à l'aide de brigades cynophiles. Il s'agit en tout cas d'un coup de théâtre dans ce dossier de disparition de cette infirmière dans la cité minière de Cagnac-les-Mines. Elle n'a plus donné signe de vie depuis le 16 décembre, il y a 6 mois jour pour jour, et depuis, l'enquête semblait piétinée, les battues, les perquisitions au domicile familial n'avaient rien donné. Or, selon nos confrères du Parisien, ce sont les analyses téléphoniques qui révéleraient des incohérences dans le déroulé de cette nuit, tel que l'a toujours présenté Cédric Jubilard, lui qui a toujours affirmé qu'il avait dormi jusqu'à 4h du matin lorsque les pleurs de sa petite fille l'ont sorti du lit, et c'est là qu'il aurait constaté la disparition de Delphine. Les auditions devraient en tout cas permettre d'éclaircir ces points et le parquet a prévu de communiquer à l'issue de cette garde à vue qui peut durer jusqu'à 48 heures.
Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest. Rémi Daillé, figure des milieux complotistes, est arrivé à Nancy où il va être entendu. Interpellé à son arrivée ce matin sur le sol français, il est soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement de la petite Mia en avril dans les Vosges. Rémi Daillé a été arrêté en Malaisie, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international.
À quelques jours des régionales, le tribunal judiciaire d'Avignon juge irrecevable la requête d'élus LR qui contestait la régularité de la candidature de Thierry Mariani. Il est le candidat du RN en tête des sondages pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ces élus avaient saisi la justice pour obtenir sa radiation des listes électorales au motif qu'il ne possède pas un domicile réel dans la ville, comme il l'affirme, et donc un attachement suffisant avec la région dans laquelle il se présente, comme l'exige le code électoral, mais ils ont donc été retoqués.
Retrouvailles sous haute tension cet après-midi à Genève entre Joe Biden et Vladimir Poutine. On se souvient tous qu'il y a quelques semaines encore, le premier qualifiait le second de tueur.
Oui, pour clore ce premier voyage international, le président américain s'est donc entretenu avec son homologue russe. Ça a duré un peu plus de 4 heures. Une rencontre qualifiée de constructive par Poutine. Les deux hommes se sont notamment entendus sur un dialogue en matière de cybersécurité et ils ont décidé d'un retour de leurs ambassadeurs respectifs.
Europe 1, Julien Bugier.
18h08, dans quelques secondes, la suite du journal. On ira du côté des étoiles, tiens, prendre des nouvelles de notre Français Thomas Pesquet qui évolue en ce moment en apesanteur. A tout de suite.
Et puis, info Europe 1, les spectateurs du Festival des Vieilles Charrues cet été pourront danser.
A tout de suite. La suite de votre journal avec ces images toujours spectaculaires, celle d'un homme. Un homme qui flotte dans le vide spatial en apesanteur à 400 km au-dessus de la Terre.
Et pas n'importe quel homme, puisqu'il s'agit de notre Thomas Pesquet, lord d'Autriche, qui en ce moment donc effectue sa troisième sortie dans l'espace en compagnie d'un astronaute américain. Alors c'est toujours extrêmement délicat. Très éprouvant aussi hein, comme mission, Laure. En tout cas, pour l'instant, jusqu'à présent, tout va bien.
Hein. Oui, on le voit sur les images en direct. Il est toujours en train d'agir, enfermé dans son scaphandre. Hein. Et puis avec les images extérieures, il est comme un petit point blanc dans le cosmos. Thomas Pesquet a effectué dans le vide les gestes qu'il a tant de fois répétés. Avec son collègue américain, ils ont installé un nouveau panneau solaire sur la station spatiale. Un panneau qui était enroulé et qu'ils ont déployé. Et écoutez, on entend ici Thomas Pesquet répondre au centre de contrôle à Houston, aux États-Unis, qui lui a demandé en anglais il y a quelques minutes comment il se sentait. Il a répondu « Je me sens très bien ». Ça fait donc un peu plus de 4 heures maintenant qu'il est dehors. Il va rester 6 heures. Une petite poche d'eau à l'intérieur de son scaphandre lui permet de boire jusqu'à 1,5 litre d'eau. Mais chaque geste est éprouvant, engoncé dans le scaphandre. Les outils qu'il manipule flottent. Il ne faut rien perdre, sinon la mission est terminée et il faut rentrer. Avec les caméras qui sont fixées sur son casque, on voit Thomas Pesquet travailler, manipuler les tournevis, les boulons qui ne ressemblent pas du tout à ceux qu'on a sur Terre. Ils sont plus gros, ils sont plus épais. Alors il y a 4 ans, lorsqu'il était sorti dans l'espace, Thomas Pesquet avait dit qu'il s'était concentré sur sa tâche, qu'il n'avait pas regardé autour, mais que cette fois-ci, il prendrait le temps de le faire. Ça doit être quelque chose d'avoir cette immensité autour de soi et la Terre bleue sous ses pieds.
Très, très impressionnant en effet. Merci Laure d'Autriche, notre spécialiste de l'espace ici à Europe 1. Thomas Pesquet qui, s'il braque l'objectif de son appareil photo avec un gros, gros zoom cet été au mois de juillet, au-dessus de Carré dans le Finistère, pendant le festival Les Vieilles Charrues, eh bien, pourra observer des spectateurs debout, debout et non pas assis comme prévu.
Tiens, tiens, c'est une information effectivement qu'Europe 1 vous révèle ce soir. La préfecture a finalement accepté que le public puisse vibrer debout, donc devant les concerts, pour la plus grande joie du directeur général des Vieilles Charrues, Jérôme Tréorel.
C'était inespéré pour nous, on est vraiment super contents. Il y a à peine 6 mois, on ne savait même pas si on aurait l'autorisation de faire un festival. Il y a quelques semaines encore, c'était quelque chose qui nous paraissait inenvisageable. On va être debout, collé serré. On demandera aux gens de respecter quand même un minimum de distance. Parce qu'il y a 5000 personnes, il faut au moins 20 000 m² de surface de vie pour les festivaliers. Après, on aura un public qui aura tous un pass sanitaire, donc une preuve montrant qu'ils ne sont pas porteurs du virus. Il faut rester vigilant, mais on voit le bout du tunnel. On est super contents. On espère aussi que cette nouvelle va réjouir le public et les artistes. On va quasi revivre les festivals comme avant.
Voilà, comme avant, ou presque. Jérôme Tréorel, le directeur général des Vieilles Charrues au micro Europe 1 d'Angèle Châtelier. Le festival, on le rappelle, se tient du 8 au 18 juillet avec Europe 1 qui sera présent sur place. Et cette annonce devrait permettre de booster les ventes hein, qui avaient un peu de mal à démarrer parce que quand même, debout, c'est mieux qu'assis.
Ben oui, forcément, c'est mieux qu'assis. Un mot de foot, Isabelle, pour terminer, au lendemain de la victoire des Bleus contre l'Allemagne.
3 rencontres aujourd'hui. Tout à l'heure, la Russie a battu la Finlande 1-0. La rencontre Turquie-Pays de Galles vient de commencer, toujours 0-0. Et à 21h, on suivra Italie-Suisse.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel de l'info. La météo.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Et la météo, Anissa, on a eu chaud aujourd'hui. Évidemment, la conséquence, c'est qu'il y a un risque orageux maintenant.
Oui, avec actuellement, Julien, 28 départements de la moitié ouest. Alors, ça va du Pays Basque jusqu'à la Seine-Maritime. Donc, de Saint-Jean-de-Luz à Rouen, 28 départements sont placés en vigilance orange aux orages forts. Et puis, le 29e, c'est le département du Rhône qui, lui, vient d'être placé en vigilance orange canicule. Alors, après les forts orages de cette fin de journée, eh bien, sachez qu'une forte dégradation orageuse arrive encore demain parce que les orages de ce soir vont s'évacuer doucement sur la Belgique et demain, bim, des orages qui arrivent encore par le sud-ouest. Donc du sud-ouest au nord, toute la journée, les orages s'abattent. Ils seront localement forts, en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, le centre, la région parisienne et le nord. Dans toutes ces régions, on aura de la grêle, des pluies soutenues, des coups de tonnerre et des fortes rafales de vent. À l'est du pays, le beau temps se maintient. C'est encore une journée d'été pour vous, sur toute la moitié est, avec des températures étouffantes demain. 36 à Strasbourg, 35 à Metz et Colmar, 34 à Dijon et Lyon, 33 à Belfort, 32 à Clermont-Ferrand, 31 à Paris, 28 à Nice. Dans l'ouest, alors là pour le coup, avec le passage des orages, on perd par endroits jusqu'à 8 degrés. 26 à Poitiers, 25 à Nantes, 24 pour Bordeaux, 22 à Quimper et 17 seulement pour Saint-Brieuc.
Comment vous dites, bim les orages.
Et bim.
Bim les orages. Prendre. Bon, très bien, c'est noté. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30.
Europe 1, Julien Bugier.
18h14, dans quelques secondes, il est l'une des grandes figures de l'économie française. Hervé Lorenzi sera avec nous pour nous livrer ses solutions pour une croissance durable. À tout de suite. Et notre invité ce soir à 18h20, il est économiste, fondateur du Cercle des économistes, président des rencontres éco d'Aix-en-Provence et il sort un nouvel ouvrage aux éditions Odile Jacob intitulé « La grande rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter ». Bonsoir Jean-Hervé Lorenzi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous dans Europe Soir. C'est un livre co-écrit, je le précise, avec Alain Villemeur, dans lequel vous faites une série de propositions pour créer une vraie croissance durable dans les décennies à venir, en réconciliant la logique d'une politique de l'offre et une politique de la demande. D'où cette idée de réconcilier Keynes, l'homme de la demande, et Schumpeter, celui de l'entrepreneur. D'abord sur le constat, vous dites il faut éviter une stagnation, c'est-à-dire une croissance molle, une baisse de l'innovation. Mais ce à quoi on assiste en ce moment, Jean-Hervé Lorenzi, c'est plutôt une reprise forte. Je regardais les dernières prévisions de la Banque de France, on est quasiment à 6% cette année. Les commerçants, les hôtels, la construction, les entreprises, tout le monde croule sous la demande. C'est reparti.
D'abord, merci de rappeler que c'est co-écrit avec cet ami Alain Villemeur, qui est un économiste absolument top et sans qui ce livre n'aurait pas été écrit. Alors, juste peut-être un mot. Même, il n'y a pas besoin d'un prix Nobel d'économie pour se dire qu'après un an de confinement, avec de l'épargne, les gens vont savoir rebondir. Je dis ça fait 6%, mais ça faisait moins 9, moins 10 ouais. L'année dernière. Donc, tout ça n'est pas top. Le vrai sujet auquel nous sommes confrontés, c'est qu'on va avoir un an. On va avoir un deuxième plan de relance, parce que je n'imagine pas que le président de la République, ce représentant, ne donne pas un petit coup de boost vers genre février. Donc tout ça,
il y aura un deuxième plan de relance, c'est
oui,
sûr.
Oui, je suis sûr. Oui, oui. On ne va pas l'appeler plan de relance. Oui. Mais ça, il va y avoir.
Vous lui avez soufflé l'idée au président ?
Non, c'est une opinion de simple bon sens. Bien. Si j'étais à sa place, c'est ce que je ferais en tout
d'accord.
cas. Et puis, beaucoup d'ailleurs d'économistes ont proposé 40, 50 milliards de plus. Et vous allez donc avoir un an jusqu'à la mi-2022. On va rattraper ce qui était 2019. Mais la fin 2019, je rappelle, c'était quand même pas formidable. C'est une croissance assez faible.
Oui.
En gros, 6 millions 2%. De gens qui ne travaillent pas à plein temps.
Oui.
9 millions de pauvres. Enfin, il faut arrêter de penser que notre cible définitive serait de retrouver l'année 2019. L'année 2019, oui. c'est en fait 20 ans où la France se comporte pas bien. Donc,
oui.
d'où l'idée que ce que nous avons proposé, c'est de dire, analyser avec Alain, c'est de dire, il y a toute une série de répartitions qui vont se modifier, des répartitions très fondamentales. Par exemple, plus emblématiques entre les jeunes et les vieux. Je veux dire, l'idée que les vieux dont je fais partie prennent 14% du PIB et que les jeunes ne peuvent jamais avoir accès à la propriété d'un logement avant 40 ans, ça paraît absurde. Donc il y a plein de choses qui doivent changer et qui sont les conditions dans lesquelles une croissance stable,
oui.
un peu plus juste, inclusive, parce qu'il faut de l'inclusion.
Oui.
Il faut évidemment aussi la prise en compte de l'environnement, du réchauffement climatique.
Et qui dépasse les petits 2% qu'on connaît depuis plusieurs années.
Et qui dépasse les 2, oui, on n'a pas 2%. Notre croissance
oui.
potentielle, la réalité, si on laisse les choses comme ça, c'est un petit 1%. Et en ayant pris 2 whisky avant pour donner le moral. Non, c'est
alors,
pas bon du tout.
Jean-Hervé Lorenzi, on va revenir dans le détail sur ces propositions. Pas toutes, mais j'en ai choisi quelques-unes. Hein. C'est 6 répartitions différentes pour changer de paradigme. D'ailleurs, vous revenez sur la définition même de la croissance. Très intéressant ce que vous dites. On a perdu de vue la finalité de cette croissance, dites-vous. Trop mathématique, vous citez d'ailleurs la philosophe Veil, Simone Veil, l'autre Simone Veil. Et vous dites, cette croissance, c'est d'œuvrer à la satisfaction des besoins humains fondamentaux et qu'il augmente le bien-être individuel et collectif. Et ça, on l'a perdu de vue.
Mais complètement. Par exemple, vous comme moi, sommes absolument stupéfaits d'admiration devant les innovations, c'est vrai. Et notamment dans le domaine de la biologie, c'est formidable ce qui est passé. Mais le reste, si ça consiste exclusivement à remplacer des individus qui ont un boulot, femmes et hommes, par des machines,
oui.
c'est pas un progrès de l'humanité. Donc tout ça doit être repensé par rapport quand même à l'idée que l'objectif, c'est de fournir des activités à tous les êtres humains, et notamment en France, de les nourrir convenablement, de les loger convenablement, tout ceci, de leur donner des progressions dans l'existence, c'est-à-dire qu'un jeune femme ou homme de 20 ans se dise « je travaille, je vais poursuivre tout au long de mon existence ».
Alors,
Il y a dans l'une de ces répartitions, la première, la répartition des revenus plus favorable au travail, ce qui relancerait le pouvoir d'achat des salariés. Très sarkozyste d'ailleurs, la valeur travail, même si ça n'a jamais vraiment abouti. Vous dites que ce serait un basculement de 100 milliards d'euros des profits vers les salaires d'ici à 2050. Comment on fait ça ?
Bon, c'est pas très compliqué, hein, c'est objectivement. Il vous a pas échappé qu'il y a quand même beaucoup de gens qui gagnent pas bien leur vie en France.
Oui.
On s'est aperçu que, par exemple, notre éducation, elle marche pas.
Oui.
Ça marche pas. On est devenu, je sais pas combien, 25e dans près tous les domaines. Et il se trouve que, coïncidence, les profs sont très très mal payés.
Oui.
Donc, on va... Alors, ça, c'est l'objectif.
Mais revaloriser les salaires, on dit que ça fait de l'inflation.
Il faut revaloriser. Nos chercheurs,
oui.
Moi qui suis économiste, on décerne un prix du meilleur jeune économiste. Il est décerné à des gens formidables, mais ils sont tous profs à l'étranger.
Concrètement, ça veut dire plus taxer les profits et augmenter les salaires?
Non, ça veut dire... Mais non. Ça veut dire simplement que la répartition qui est vieille comme le monde, et c'est pas un bouleversement, qui est en gros... Un tiers, deux tiers, c'est toujours dans le monde, ça a toujours été depuis des siècles,
oui.
Un tiers pour les profits, deux tiers pour les salaires. Et en France, on est à 32. Pour atteindre ce fameux 100 milliards dans un certain temps, il faut passer à 29%. C'est pas la fin du monde.
Oui, oui.
Et ça signifie simplement que l'équilibre qu'avait très bien vu le mec le plus intelligent du 20e siècle, Ford,
oui.
Bah, vous achetez pas des voitures s'il n'y a pas des consommateurs.
Alors,
donc il faut trouver un équilibre entre l'offre et la demande.
C'est un exemple... parlant de l'histoire,
1914,
le constructeur automobile Henry Ford décide donc de porter le salaire de ses ouvriers à 5 dollars au lieu de 2 ou 3 dollars, ce qui est la norme à l'époque. Et il dit ceci, si nous répandons beaucoup d'argent, cet argent est dépensé et du coup, ça fait tourner la machine économique.
Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça serve uniquement à importer des biens, parce que c'est quand même là où on s'est bien dégradé en France, c'est notre industrie. Donc il faut retrouver des capacités en France et en Europe,
oui.
D'être bon en technologie, d'être bon en industrie. Et ça signifie, alors c'est une des autres répartitions,
oui.
Mettre plus d'argent dans la recherche, dans l'investissement.
Alors justement, c'est la transition toute trouvée. Il faut, dites-vous, des investissements plus favorables à l'emploi et éviter les investissements qui ne font que gagner en productivité. Très intéressant, mais là aussi, concrètement, comment on fait? Parce que quand on est actionnaire et qu'on veut flécher ses investissements, c'est de bonne guerre, c'est même humain de faire en sorte qu'on gagne en rentabilité pour gagner plus d'argent.
Mais entre nous, je suis évidemment favorable à cette idée-là. Le problème, c'est que notre répartition, puisque tout ça, c'est quand même un peu modélisé, c'est pas uniquement des vues de l'esprit, c'est que 60% des innovations doivent être créatrices de biens et services nouveaux,
oui.
Et 40% de la rationalisation, mais pas 100% de rationalisation. Donc, tout ça, alors comment on fait ?
Mais pour inciter, ça passe par une réforme fiscale ?
Non, ça passe pas. Oui, par des bonus-malus. C'est-à-dire que si vous poussez les innovations qui sont créatrices de nouveaux biens et services, ce qui a été développé pour les vaccins, c'est inimaginable, c'est formidable, l'ARN. Et donc ça, bah, hop, je le pousse. Je booste d'ailleurs les entreprises qui produisent des vaccins. Et en revanche, il s'agit uniquement de faire que tout le boulot, comme on retrouve maintenant un peu partout, ce soit nous qui fassions le boulot, vous savez, on supprime beaucoup d'emplois et vous mettez votre carte un peu partout,
oui.
C'est pas, je pense pas que ce soit un progrès de l'humanité.
Alors je voudrais qu'on termine sur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la répartition de revenus générationnels. C'est vrai que là il y a un gap colossal, hein, le revenu des jeunes générations est de l'ordre de 20% en dessous du revenu moyen national dans l'OCDE. Rôle de l'État absolument essentiel dans cette meilleure répartition. Là aussi, comment on fait concrètement ?
Bah là, c'est très simple. C'est là, je booste massivement les donations. C'est je booste le fait que aujourd'hui, les gens meurent en gros à 80 ans et ils donnent leurs héritages à 60 ans.
Oui.
À quoi ça sert ? À 60 ans, on a déjà acheté son appartement, etc. Donc il faut arriver par tous les moyens à ce que l'argent circule entre deux générations, celle qui, malheureusement, ce sera notre cas tous, va mourir, et l'autre qui est en train de créer sa vie.
Donc favoriser les dons,
Je favorise
plutôt.
Tout ce qui permet... Alors après, vous avez... toujours 250 mesures pour arriver à faire des choses intelligentes et qui ne sont pas violentes par rapport à la société. Mais je prends un exemple, je suis favorable à ce que d'ailleurs je crois le gouvernement va mettre en œuvre, une garantie jeune, pas un RSA jeune, hein, une garantie jeune, c'est-à-dire je donne un minimum de revenus à tous les jeunes de moins de 25 ans, je leur donne, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Oui. Et ce qui s'est passé toute cette année est effrayant, avec la possibilité simplement de vérifier que le jeune, il cherche un emploi, soit il fait une formation. Donc, un donnant-donnant, on n'est pas dans une société d'assistés, mais une société donnant-donnant. Toutes ces répartitions ne sont pas à faire brutalement, mais en réalité, si on ne les fait pas, la France va se retrouver avec 1% de croissance. Allez, 5 954 millions de chômeurs. Allez, on continue avec 9 millions de pauvres. C'est quand même pas l'objectif d'une société.
Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pendant les 5 prochaines années, Jean-Hervé Lorenzi ? Parce que vous feriez un bon ministre de l'économie avec tout ce que vous dites.
Bah écoutez, si vous me le proposez, vous savez...
Moi, j'adorerais
être ministre des Sports, parce que je trouve ministre des Sports. Mais je peux être un... avec mon ami Alain, nous pouvons être des bons conseils pour ceux qui nous gouvernent, ce que nous avons d'ailleurs déjà fait l'un et l'autre.
Bien. Ça s'appelle La Grande Rupture, passionnant, réconcilier Keynes et Schumpeter avec Alain Villemeur, Jean-Hervé Lorenzi, donc aux éditions Odile Jacob. Et puis on le rappelle, il y a les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui commencent dans 10 jours. Maintenant.
Dans 10 jours, et là on va se poser 2 questions. Qu'est-ce qui va vraiment changer ? C'est en quoi le capitalisme va changer ? Et comment est-ce que la France est capable, non pas de revenir à 2019, mais vraiment de rebondir et de retrouver ce qu'elle avait comme dynamisme il y a une vingtaine d'années ?
Ça fait écho
et on
au
va
livre.
Trouver les solutions.
Bien, merci Jean-Hervé Lorenzi d'avoir été ce soir avec nous.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Le rappel des titres dans quelques secondes et puis on parlera de la fin du masque à l'extérieur, de la fin du couvre-feu. En a-t-on vraiment fini avec le Covid ? A tout de suite. Le rappel des titres à 18h30 avec Isabelle Millet.
Et c'est l'info du jour. À partir de demain, on ne sera plus obligé de porter le masque en extérieur, sauf dans les cours de récréation. Et à partir de dimanche, ce sera la fin du couvre-feu qui était en vigueur depuis octobre. La situation sanitaire du pays s'améliore plus vite qu'espéré, a dit le Premier ministre à la mi-journée. L'ex-compagnon de Julie Dwib, condamné cet après-midi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Bastia, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. 6 mois après la disparition de sa femme, Delphine Jubilard, dans le Tarn, son mari a été placé en garde à vue aujourd'hui, ainsi que 3 de ses proches. L'image est symbolique. Joe Biden et Vladimir Poutine se sont serrés la main au début de leur sommet à Genève cet après-midi. Et ces deux-là avaient beaucoup de choses à régler. Manifestement, ils ont discuté pendant plus de 4 heures, rencontre qualifiée de constructive par Poutine. Et puis en Formule 1, le pilote français Esteban Ocon prolonge son contrat avec Alpine jusqu'en 2024.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour un journal complet. La météo avec Anissa Dadi, de la chaleur et par conséquent des orages.
Oui, du sud-ouest au nord demain, les orages seront localement forts avec de la grêle, des rafales de vent, de fortes pluies. Prudence pour l'instant, nous avons 28 départements de la moitié ouest qui sont placés en vigilance orange aux orages. Et puis le Rhône, le département du Rhône vient d'être placé en vigilance orange canicule. Où cette nuit, du côté de Lyon, la température ne devrait pas baisser en dessous de 20 degrés. Il va donc faire très chaud. Prudence.
Merci Anissa. On vous retrouve à 19h pour un point complet.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Les grandes voix du jeudi, du mercredi, j'avance un peu avec ce soir à mes côtés Pascal Jalabert, bonsoir, rédacteur en chef au groupe EBRA. Jean Garrigue, l'historien, bonsoir Jean.
Bonsoir.
Et Aurélie Herbemont, bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors c'est l'événement effectivement de la journée, cette annonce de Jean Castex après le Conseil des ministres, levée du port du masque en extérieur dès jeudi, du couvre-feu à 23h dès dimanche. En avance donc sur les dates prévues, Emmanuel Macron a d'ailleurs réagi il y a quelques instants.
On ne peut que se féliciter que nous ayons eu la bonne stratégie, celle à chaque étape qui a été proportionnée en regardant les résultats. Et donc on regarde où nous en sommes et à chaque fois nous adaptons les choses. On a maintenant presque 15 jours de recul sur la dernière étape et on voit bien qu'il y a une ou deux choses qu'on peut ajuster, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, mais avec beaucoup de prudence. Et donc rien n'est gagné. Et j'insiste là-dessus. Et donc vraiment j'invite tous nos concitoyens à continuer de se faire vacciner, d'aller à la vaccination qui est le seul moyen durablement de combattre cette épidémie. Et on va continuer ensuite à avancer les choses étape par étape comme on l'a prévu.
Bien, on sent dans la voix Jean Garrigue qu'il a quand même le sourire, le président de la République, parce que ça y est, le pari est gagné.
Oui, c'est Macronus Imperator, c'est le général victorieux. Oui, il faut bien reconnaître, c'est vrai que après moult erreurs quand même, qui ont été commises au départ sur les masques, etc., là, la stratégie qui a été choisie, qui était quand même de se décaler un peu par rapport aux injonctions des experts et des soignants et des experts de la santé, cette stratégie-là a été gagnante. Elle misait sur une vaccination de masse. Et c'est vrai qu'après avoir pris un peu de retard, on a rattrapé ce retard par rapport à la moyenne européenne, on va dire. La vaccination a porté ses fruits. On voit bien que le nombre de réanimation autour de 2000, le nombre de cas par jour, je crois que c'est à peu près 4000, on est bien en dessous.
Ouais, 3800 et ça baisse considérablement jour après jour.
On est bien en dessous des Britanniques qui, eux, sont face à une sorte de nouvelle vague. Donc oui,
alors c'est pas tout à fait le retour de la bamboche, mais on s'y approche quand même. Alors il y a peut-être un élément, Aurélie Herbemont, qui est moins avouable d'une certaine manière de la part de l'exécutif et notamment du président de la République, c'est que les policiers avaient de plus en plus de mal aussi à faire respecter le couvre-feu. C'est une mesure de pragmatisme en somme.
C'était très compliqué de faire respecter le couvre-feu parce qu'en plus on le voit avec les beaux jours et puis on a eu des dérogations deux fois en moins d'une semaine. Il y avait eu vendredi soir à Roland-Garros, ce qui avait fait pas mal jaser d'ailleurs d'avoir en parallèle l'évacuation des jeunes aux Invalides et en même temps les fans de tennis à Roland-Garros à qui on avait donné l'autorisation de rester, les privilégiés. Et puis hier, il y avait déjà eu à nouveau dérogation pour rentrer un peu plus tard avec le match Allemagne-France. Il y aura d'autres matchs des Bleus dans les prochains jours. C'est vrai que ça devenait
beaucoup
très compliqué
à comprendre, à comprendre aussi la logique de cette mesure. Et je crois d'ailleurs que la France, Pascal Jalabert, était l'un des derniers pays européens, le dernier bastion gaulois d'une certaine manière, à appliquer encore un couvre-feu. Il était temps de le faire sauter.
Oui, il était temps. Ça fait 8 mois que nous étions sous couvre-feu, alors avec des horaires d'hiver, mais quand même 8 mois, c'est très long. Et puis surtout, c'était inapplicable. Incompris, inapplicable, impossible à continuer. Donc voilà, une mesure de pragmatisme qui tombe avec des indicateurs qui descendent très 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 vite tous les taux. Et puis, un petit coup de chance, ça tombe à 3 jours d'une élection, ça ne fait pas de mal.
Ça ne fait pas de mal, effectivement.
Non, c'est vrai qu'il y a un vent d'optimisme là. Il y a la victoire de la France hier face à l'Allemagne, la vaccination qui avance, la fin du couvre-feu, fin du masque, vent de liberté aussi, et puis la consommation, l'économie repart très très fort. Alors, c'est vrai que vous évoquiez un peu plus de 8 mois de couvre-feu, j'ai compté 270 jours. Il faut se rendre compte de ce que ça représente quand même, 270 jours de couvre-feu, c'est près de 9 mois au total, Jean-Garry.
Et avec cet effet psychologique, ça fait des mois qu'on le souligne, mais c'est vrai que les séquelles psychologiques du confinement et du couvre-feu ont été très, très importantes. On sait bien le nombre de dépressions, de violences intraconjugales, etc. Tout ça a explosé pendant la crise. Et donc c'est vrai que cette impression-là de liberté que va donner l'absence de port du masque à l'extérieur, et l'autorisation de ne plus porter le masque à l'extérieur, on ne sait plus comment le dire, la fin du couvre-feu, symboliquement, c'est quelque chose de très fort.
Alors, il y a un élément sur lequel il faut évidemment rester vigilant, vous évoquiez la Grande-Bretagne, c'est la traque du variant Delta, qu'on avait appelé le variant indien, qui est beaucoup plus contaminant. Il représente actuellement, a dit le Premier ministre lors de sa prise de parole à l'Élysée, 2 à 4% des tests positifs ciblés, et on connaît la suite, c'est généralement exponentiel, donc attention aussi au retour de bâton à l'automne.
Bien sûr, pour l'instant, c'est pour ça qu'ils essayent d'amplifier le tracé, alerter, protéger, le fameux, pour tracer effectivement dès qu'il y a un cas de variant Delta, pour essayer de remonter les chaînes de contamination, pour essayer d'endiguer, de contenir un maximum, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle vague plus tard, effectivement, parce que plus la vaccination avance, mais à un moment on va arriver à un taquet où les gens, il n'y aura plus de volontaires pour... Je sais
ou
pas.
Un plafond.
Mais attaquer. Ça fait vraiment le truc blocage aussi.
Dites-moi, j'ai une question politique à vous poser. On avait longtemps dit que, sitôt cette séquence Covid terminée, il faudrait peut-être réfléchir à changer aussi de Premier ministre, peut-être faire des ajustements au sein du gouvernement, parce que Jean Castex était très identifié. Monsieur Covid, monsieur mauvaise nouvelle. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité, Aurélie ?
C'est la première fois aujourd'hui qu'il a annoncé des bonnes nouvelles, je crois, Jean Castex. Il faut bien se remettre dans l'histoire. Non, il est nommé monsieur déconfinement.
Il monte aussi dans les sondages.
Il s'est installé dans ce poste de Premier ministre. Alors, la question des remaniements, c'est vrai que c'est à chaque fois qu'on a une élection, notamment, ça revient.
Oui.
Est-ce que ça a un vrai impact dans l'opinion ? Je ne sais pas vraiment. Effectivement, certains dans la majorité disent qu'il faudrait changer le dispositif pour donner une nouvelle impulsion. Et certains vous disent au contraire, surtout pas, laissons Jean Castex faire le travail, parce qu'en plus, ça accréditerait la théorie qu'on rentre en campagne présidentielle, et évidemment Emmanuel Macron veut rentrer le plus tard possible. Donc il y a un peu les deux écoles. Alors, et puis un remaniement, ça n'a jamais changé fondamentalement.
Pascal Jalabert, vous répondez dans quelques secondes. On marque une pause. Réfléchissez bien ce que vous allez dire. Attention, 18h39, à tout de suite. Ouais, la suite des grandes voix du mercredi. Alors Pascal Jalabert, rédacteur en chef au groupe Ebra, je vous ai interrompu juste avant la pause. Remaniement ou pas? Vous y croyez cette idée-là?
Non, pas forcément. Ce qui compte, c'est un peu le contenu de la politique des derniers mois. Du quinquennat, réforme des retraites, pas réforme des retraites, visiblement ça serait plutôt non, d'après ce qu'on sait. Et puis, quand on dit que le président va entrer le plus tard possible en campagne, officiellement oui. Mais enfin, quand on voit le fameux Tour de France, hein, d'ailleurs qu'il a commencé avant les coureurs cyclistes, il y est déjà. Là, demain, il est chez lui à domicile en Picardie. Il y a eu le Lot, les territoires ruraux, la Drôme. On y est comme à chaque fois. C'est vrai qu'il part avec un double avantage par rapport à ses deux prédécesseurs. Ce sont des sondages très hauts. Et puis, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il a quand même vanté le bilan de la stratégie du confinement, enfin seconde version face au virus. Et c'est vrai que le résultat plaide en sa faveur.
Alors justement, vous me faites la transition toute trouvée, Pascal Jalabert, puisqu'Emmanuel Macron continue, vous l'avez dit, son Tour de France. Demain, les Hauts-de-France. Alors ça n'a rien à voir, nous dit-on, dans l'entourage du président avec les élections régionales, dont le premier tour aura donc lieu dimanche. Mais ce déplacement sur les terres de Xavier Bertrand, qui est le sortant, puisqu'il est actuellement président de la région, adversaire potentiel d'Emmanuel Macron en 2022, eh bien fait grincer des dents et pose question. Est-ce qu'Emmanuel Macron, Aurélie Herbemont, mène campagne sans le dire?
Oui.
Oui, nous on peut le dire.
Ben oui, enfin, vous avez même des conseillers du chef de l'État qui disent oui, bien sûr, mais évidemment, il ne va pas le dire, etc. De fait, un président de la République est plus ou moins tout le temps en campagne quand il aspire à un second mandat.
Parce que sur le papier, c'est un déplacement officiel consacré, nous dit-on, à l'éducation.
À l'éducation, à la langue française. Et ce qui va être intéressant dans ce déplacement d'Emmanuel Macron aussi, c'est qu'il va aller demain, en fin d'après-midi, à Villers-Cotterêts. Villers-Cotterêts, oui. C'est pas n'importe quelle commune, c'est une de la dizaine de communes qui est gérée par le Rassemblement National depuis les élections de 2014. Donc il va aller dans une commune où, a priori,
au lieu de
la population...
De
bien sûr, évidemment. Bien sûr.
Alexandre Dumas.
Alexandre Dumas, on peut peut-être en dire un mot. Et puis
surtout l'édit de Villers-Cotterêts qui a introduit le français comme langue officielle.
Oui.
1539.
Donc le président de la République fait campagne pour les régionales pour donner un petit coup de pouce à ses candidats.
Pour les régionales, moi j'aurais même tendance à dire presque plus pour lui que pour les régionales et concernant sa propre présidentielle plus que pour les élections régionales.
Pour les régionales,
c'est juste pour dire que c'est pas n'importe quelle région, les Hauts-de-France, c'est celui qui est candidat pour les LR dans les Hauts-de-France, c'est quand même Xavier Bertrand, c'est-à-dire, a priori, le rival le plus costaud des Républicains pour Emmanuel Macron. Rival qui, d'ailleurs, sans anticiper outre mesure ce que les résultats des régionales, risque de se retrouver au second tour en ayant besoin du soutien de La République En Marche. Ce qui donne une situation un peu compliquée. Et on sait bien que Emmanuel Macron a envoyé toute une délégation de ministres, dont Éric Dupond-Moretti dans la région.
Cinq ministres en campagne.
Cinq ministres. Avec des résultats assez faibles, puisque pour l'instant, la liste plafonne autour
10%.
De 10%. Mmh. C'est vrai que ce voyage, qui a une justification théorique, apparaît un petit peu quand même
mais
à trois jours du
scrutin. Pardon de poser une question un peu naïve, et ça fait un peu vieille politique quand même, le président arrive, et comme de par miracle, ça boosterait le score de sa majorité dans cette région. Ça marche encore, ça, Pascal Jalabert?
Alors,
déplacement et boum, on gagne 2 points?
Oui, c'est très difficile à dire sur un scrutin comme ça.
Parce que ce n'est pas le Messie non plus, le président.
Non, ce n'est pas le Messie, mais on a l'impression que ce scrutin-là va se jouer à qui ne perd pas ses électeurs gagne, vu les taux d'abstention très élevés qu'on nous annonce. Donc le but, ça va être de mobiliser le maximum de ce qu'on peut mobiliser dans son camp. Après, je crois que Emmanuel Macron, il veut enjamber ce scrutin comme il a enjambé les municipales parce que son parti, c'est le point faible, c'est l'ancrage local. En revanche, il ne l'enjambera pas s'il y a une ou deux régions qui basculent au Rassemblement national. Il n'apparaîtra plus, lui, comme le rempart contre l'Assemblée nationale. Et des Laurent Wauquiez, des Xavier Bertrand, des Valérie Pécresse, ils pourront dire « Moi, j'ai vaincu le Rassemblement national ». Donc, il joue quand même plus gros que certains veulent le dire.
Est-ce que Xavier Bertrand va lui réserver l'accueil républicain qui est de tradition à l'Irabe Monde? Des infos là-dessus?
En tant que président de région, normalement, ils peuvent être amenés à se croiser demain. Après, c'est forcément une ambiance un petit peu particulière s'ils se croisent. La dernière fois qu'Emmanuel Macron était allé dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand s'était retrouvé à côté d'un kakémono au fond d'une salle avec plein d'autres élus. C'était très particulier. Mais après, je voulais revenir sur le côté enjamber les élus. élections, pour le coup, je ne trouve pas du tout qu'Emmanuel Macron enjambe les régionales. Beaucoup moins que les municipales. Il y a quand même 15 ministres au total qui sont candidats.
Mais c'est à cause de ce
Premier
côté
ministre s'est mouillé
national.
Lui-même en annonçant l'accord avec LR en PACA. Ça va être compliqué le lendemain de nous expliquer ce n'était que des élections locales.
Non, ça, ils pourront pas.
Circuler, il n'y a rien à voir, ça ne nous concerne pas. Ça... Oui. Les municipales, on n'était pas du tout dans la même implication de la majorité et du gouvernement. Là, il y a une vraie implication du gouvernement, avec un succès plus ou moins divers, parce que les Hauts-de-France, on le disait, 10-11% avec 5 ministres. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron, ça peut faire monter un petit peu, mais objectivement, je ne suis pas sûr que ça bouge beaucoup le score de dimanche.
Bien, on marque une nouvelle pause. On va parler de ces élections, justement, de dimanche, avec un score qui inquiète, là, pour le coup, tous les candidats. C'est l'abstention. À tout de suite. 18h50, la suite des grandes voix du mercredi. Pascal Jalabert, rédacteur en chef au groupe Ebra, toujours à mes côtés dans le studio d'Europe Soir. Alors j'évoquais le chiffre qui fait peur à tout le monde, l'abstention. On annonce des records d'abstention, parfois jusqu'à 60%. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un désintérêt de cette élection de la part des Français? Une nationalisation qui n'a pas fonctionné, parce que c'est vrai que le scrutin a tout de même été nationalisé, ou c'est tout simplement l'effet de la liberté retrouvée des Français post-Covid?
Oui, on a l'impression que les Français ont plutôt envie de célébrer le maillot bleu de l'équipe de France de foot et de préparer les maillots de bain pour l'été. Voilà, pour la période, c'est plutôt cette liberté retrouvée. Les jeunes ont quand même quelques préoccupations d'orientation. Comment on reprend les études, quel job on va trouver pour cet été, les familles, où est-ce qu'on part en vacances. Donc, le temps n'est pas à réfléchir à une élection. J'ajoute que cette double élection est quand même compliquée à comprendre. Il y a scrutin départemental, régional, on a redécoupé les cantons avec des binômes, c'est très compliqué. Donc, à voir. Rappelons quand même en 2015, l'abstention au premier tour, c'était 50%. Il y a eu un réveil entre les deux tours de participation de plus 8%, notamment dans les régions où le Rassemblement national était en mesure de gagner. Donc, on va voir, ça sera intéressant à mon avis de voir l'évolution entre les deux tours.
Et puis il y a un élément, moi qui m'interroge toujours, l'isoloir, le petit rideau, la petite enveloppe, le bulletin, l'élection n'a pas évolué depuis plus de 50 ans. Pourquoi ne pas faire évoluer l'élection comme l'ont fait aussi beaucoup de nos voisins européens, voter à distance, le vote numérique, le vote sur Internet?
C'est vrai qu'il y a quand même un retard français à cet égard, une difficulté à s'adapter. Oui, à ce qui
François Bayrou, il avait proposé, ça a été écarté.
C'est vrai, il y a une lourdeur politique à cet égard. Tout le monde se regarde un peu en chien de faïence et refuse d'aller vers cette modernité. Alors que le gros problème de cette abstention, c'est qu'elle touche de plus en plus les jeunes, et pas simplement les tout jeunes, mais toutes les franges en dessous de 40 ans. Hein. Donc on va encore une fois de plus avoir une élection vraisemblablement où il y aura une mobilisation relativement forte des seniors, des aînés, et où ceux qui devraient être les forces vives, on va dire, de la société, sans exclure personne, mais vont être un peu à l'écart du scrutin. Alors s'il fait beau en plus, on sait que les jeunes... ce qui va favoriser d'ailleurs l'abstention risque de favoriser les sortants justement, et de pénaliser éventuellement la poussée, on peut le dire dès maintenant d'ailleurs, la poussée éventuelle du Rassemblement National.
On est sûr de ça, Aurélie Herbemont, parce qu'on a toujours dit jusqu'à présent qu'aux élections, ceux qui se mobilisaient le plus, c'était aussi les contestataires. Donc les
donc
votants, a priori,
ça,
pour les extrêmes.
Ça peut servir le Rassemblement National. Oui. C'est les électeurs du Rassemblement National peuvent être considérés comme les plus motivés pour faire turbuler le système et donc aller voter. Mais c'est très compliqué à mesurer. Oui. Et surtout là, depuis quelques semaines, évidemment, on a des sondages dans toutes les régions. Mais si la participation s'avère encore plus faible et finit à 35%, on risque peut-être d'avoir des surprises énormes dans certaines régions par rapport à des sondages qu'on avait qui donnaient des gens un ordre d'arrivée bien calé avec 3-4 points d'écart, ce qui déjà est quasiment dans la marge d'erreur sur les sondages pour les régionales. Et avec une participation très fluctuante, on peut avoir des ordres d'arrivée qui seront totalement différents dimanche soir à 20h de ce qu'on avait pu anticiper.
Et on le rappelle à notre public qui nous écoute, c'est une élection particulière parce qu'il suffit d'avoir plus de 10% pour se maintenir au second tour. Ça veut dire qu'on peut avoir 4 candidats potentiellement qui se maintiennent.
Voire 5.
Donc ça anime évidemment entre les deux tours le jeu des alliances nécessairement. Quelles seront les régions d'ailleurs à suivre particulièrement de ce point de vue-là?
Alors, il va y avoir beaucoup à suivre et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y en a pas vraiment deux qui ont la même configuration, ouais. Puisque en PACA, on a déjà eu une alliance au premier tour entre LR et La République En Marche. Que se passera-t-il avec la liste de gauche ? Il y a six ans, la liste de gauche s'était sabordée. Il y avait pas de représentant pendant six ans dans l'hémicycle régional pour empêcher une victoire de Marion Maréchal Le Pen. Là, est-ce que la gauche va vouloir se saborder ou pas ? Alors, est-ce qu'il va y avoir des fusions techniques avec la liste de droite pour qu'ils aient quand même des représentations ?
Évidemment, les Hauts-de-France, on l'a évoqué.
Avec une situation totalement différente dans les Hauts-de-France.
Bourgogne-Franche-Comté. Alors oui, dans le périmètre Hébras, donc nous avons en effet la Bourgogne-Franche-Comté.
Où... Allez-y, cher spécialiste.
Non, je ne suis pas spécialiste, mais...
c'est votre région.
Voilà, nous avons une situation hyper particulière, avec un Rassemblement national qui est parti très haut, mais qui semble marquer le pas, parce que le candidat Julien Odoul...
Il y a quelques petites polémiques.
Ouais, il y a eu quelques petites polémiques. La sortante Marie-Guy Dufay, qui est quand même connue, qu'on a vue pendant la crise très active pour l'achat de masques. La droite qui est bien implantée avec Gilles Platret, le maire de Châlons. Et LREM... qui pourrait, dans cette région, faire le choix de la gauche au second tour. Ça serait intéressant à voir, parce que LREM...
C'est quasiment la seule région où il pourrait y avoir une alliance LREM avec la gauche.
Et comme ça, LREM pourrait dire, regardez, on est bien en même temps, on est à droite en PACA.
Il y a une autre région qu'il va falloir surveiller, Centre-Val-de-Loire.
Vous avez là la percée d'un jeune du Rassemblement National, qui s'appelle Nikolic, et que personne ne connaissait.
Que personne ne connaît.
C'est le Bardella du Centre-Val-de-Loire, qui fait une bonne campagne, et là, qui percute totalement l'ordre établi. On a un candidat socialiste, Bono, qui depuis longtemps président du conseil régional, mais qui est en perte de vitesse. Fesneau, qui est le ministre qui lui représente le MoDem,
un élu local.
Élu local, très très
qui
très
a priori
implanté.
Avait des chances d'être élu. D'ailleurs, c'est la seule chance de la majorité.
Exactement.
Mais qu'est-ce
qui va se passer là aussi? Il y a au moins une triangulaire, voire une quadrangulaire qui
risque d'être... S'il n'y a pas d'accord entre Marc Fesneau et le candidat de droite Nicolas Forissier, mais qui lui ne désespère pas d'arriver au finish devant Marc Fesneau, parce que les sondages de ces derniers jours, on est dans la marge d'erreur. Donc en fait, pour Centre-Val de Loire, on ne sait pas ce qui se passe.
Il y a beaucoup de régions où on ne sait pas.
Passionnant à suivre. Édition spéciale et soirée électorale, évidemment, sur Europe 1.
À partir de 19h30. Dimanche.
À partir de 19h. Et ce sera avec vous, notamment Aurélie Herbemont. Merci à tous les trois d'avoir animé à mes côtés les grandes voix du mercredi. Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Allez, on marque une pause. 18h56 dans quelques secondes, le journal. Et puis le Club des idées. Ce soir, on parlera des EHPAD. Les EHPAD du futur. C'est un sujet évidemment qui nous concerne tous. À tout de suite.